stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So you gotta let me know.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission L'écho des jeunes. Donc notre troisième émission, toujours avec Mathis Chartier, Soraya Manuel Adalberto et Juliette Gertz, donc vos chroniqueurs que vous aimez tant écouter. Donc déjà, comment allez-vous ?
Bah ça va, écoute.
Moi ça va personnellement, un peu fatiguée.
Bientôt Noël.
C'est la fin, voilà. C'est bientôt Noël, c'est bien.
Bon ouais, après, chacun son avis sur Noël. Soit Noël de consommation, soit Noël de charité.
Ah, oh, Juliette.
Chacun son symbole, mais c'est Noël.
Noël de magie.
Et... Noël de magie.
Voilà, et oui, c'est ça.
Le Père Noël, il va bientôt passer. Ouais.
D'accord. Donc, avant d'aborder nos sujets du jour, nos chroniques du jour, on va faire un petit tour de table sur vos découvertes de la semaine ou vos actualités de la semaine, les sujets dont vous voulez parler. Mathis, tu peux commencer?
Bah oui. Moi, je vais vous parler. Vous avez sûrement entendu parler. Donc, l'accord Mercosur, qui est un accord entre l'Europe et les pays d'Amérique latine, qui a fait beaucoup débat, notamment dans nos campagnes, puisque ça va toucher indirectement nos agriculteurs. Donc, en fait, l'accord Mercosur, c'est un engagement qu'a l'Europe à faire passer certaines importations, exportations, en réduisant les taxes, voire même en enlevant les taxes de certains produits d'Amérique latine, ce qui peut fortement fragiliser notre agriculture.
Puis ça pose des problèmes de la question des normes.
Voilà,
c'est vrai, en fait, parce qu'eux, ils ont des normes et les autres, ils n'en ont pas.
Alors, nous, c'est plutôt que la France, on a des normes très très précises sur l'agriculture.
Oui, ça, nous, on a des normes.
Voilà, et au sein de l'Union européenne, qui n'est pas forcément respectée par l'Amérique latine.
Ouais,
c'est une question de valeur aussi.
Voilà, donc c'est un accord important. Donc la France est contre, hein, le gouvernement est contre, mais ça reste de l'ordre de l'Europe. Donc ça sera aux pays membres de décider si on adopte ou pas le traité Mercosur.
Donc il me semble qu'il devait être signé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est le 6 novembre, voilà, pour l'enregistrement. Mais après, je ne suis pas certaine. Et la France, pour s'opposer, en fait, pour que quelque chose soit voté au sein de la Commission européenne, il faut une majorité de pays membres et je crois 65% de la population de l'Union européenne,
il me semble.
Donc en fait, c'est une majorité qualifiée, c'est une majorité bien précise. Et du coup, la France essaye de rallier certains pays, dont l'Italie et la Pologne.
La Pologne, peut-être.
Pour s'opposer, en fait, au traité de Mercosur. Donc, c'est très, très compliqué. Mais globalement, je trouve que l'opinion française est plutôt contre. Ouais. Que ce soit les écologistes, les agriculteurs. On n'est pas derrière cet accord. Ouais. Mais après, c'est encore le conflit national, européen. Quoi. C'est compliqué comme politique.
Et je viens de voir qu'à ce moment-là, on vient d'apprendre que la loi Mercosur vient d'être passée, du coup.
Ouais, elle a été signée par Ursula von der Leyen. Donc ça va poser quand même beaucoup de conflits dans les jours à venir. On pense à nos agriculteurs. Bon, surtout dans la Nièvre, de là où on enregistre. Ouais. C'est très important. Bon, et toi, Soraya, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui?
Moi, j'ai vu une petite actualité à longtemps quand même sur le compte L'Opsis. Le 15 novembre 2024 en Colombie, après des années de tentatives, les députés ont enfin réussi à faire passer le vote d'interdiction au mariage pour les mineurs.
Et c'est très très important.
Ouais, c'est même
surtout à une époque où on va pas se cacher, il y a quand même beaucoup de pays qui connaissent des reculs par rapport à ça. Et je trouve ça super important, donc c'est important de le souligner quand même. Mais c'est tardif pour un pays d'Amérique du Sud, je suis d'accord aussi.
La Colombie quand même.
C'est quand même un avancement majeur. Et moi, je vais aborder brièvement ma petite actualité de la semaine qui n'est pas si petite que ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez grave, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc c'est la censure du gouvernement Barnier qui a été déclarée le 4 novembre 2024. Donc c'est une censure, il n'y avait pas eu de censure de gouvernement qui avait abouti depuis octobre 1962. Donc censure du gouvernement de Pompidou qui avait été réélu à la suite et ça avait marché. Elle a été votée à 331 voix alors que la majorité à 289. Donc il y avait une majorité composée du Rassemblement National et de la gauche diversifiée, on pourrait dire du NFP. En fait, elle est survenue après que le gouvernement Barnier ait appliqué l'article 49.3 de la Constitution afin de faire passer le budget de la sécurité sociale dans un contexte parlementaire qui est quand même très particulier on a des pays, des partis qui sont très très divisés depuis les élections législatives, donc beaucoup de difficultés de s'accorder avec un gouvernement et des politiques, puisqu'il y a un tiers de droite, un tiers de gauche, un tiers de centre. Globalement, on pourrait
représenter.
Globalement, voilà, il y a une majorité à gauche, mais très très courte. Ouais. Et en plus, elle est morcelée, puisque c'est le NFP qui a été élu. Il y a plein de partis qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. Donc, notre Parlement est très très compliqué. Donc, ça pose quand même beaucoup de questions, cette censure. Déjà, le budget. Parce qu'on a une dette très importante, on a quand même beaucoup de questions à régler, mais on devrait s'arranger avec ça, peut-être le modeler pendant l'année à venir, mais je pense que ça va être fait. Ensuite, ça met quand même en lumière les fragilités des institutions de la 5e République, République peut-être un peu trop présidentielle, peut-être pas assez démocratique, à voir, mais en tout cas, on est quand même dans une situation qui n'avait pas été imaginée au préalable pour notre gouvernement.
Quand on a créé la constitution de la 5e République, je ne pense pas qu'on pensait ne serait-ce qu'une seule fois à pouvoir voter une motion de censure comme ça.
En fait, dans les faits, c'est souvent enseigné que les motions de censure, elles ne passent pas. Après, du coup, le fondateur de la constitution lui-même a connu une censure de son gouvernement, Charles de Gaulle, mais ça a été la dernière il y a des années. Et on se retrouve dans une situation où évidemment tous les Français se demandent quels vont être les successeurs de ce gouvernement qui n'a pas tenu 3 mois finalement.
Ouais.
Donc entre François Bayrou, Bruno Retailleau et Bernard Cazeneuve, chacun son avis. Voilà, chacun son bord politique, mais c'est très diversifié en tout cas. Et peut-être que Emmanuel Macron va encore nous surprendre avec des noms qu'il va tirer de son chapeau. On verra dans les jours à venir, mais c'est quand même une actualité à noter, je pense. Donc aujourd'hui, on va se lancer sur nos chroniques maintenant, qui sont plutôt très diversifiées. On a un aspect politique, des aspects culturels, donc on va pouvoir voir tout ça. Donc aujourd'hui, Mathis va nous présenter une chronique sur le film Un petit truc en plus, accompagnée de la visibilité du handicap dans le milieu du cinéma, on pourrait dire ça comme ça.
Voilà, c'est ça.
Et Soraya va nous présenter une danse que vous connaissez forcément, qui s'appelle le haka. Donc remémorez-vous un petit peu les scènes de rugby, je pense que vous allez comprendre assez rapidement. Et moi, je vais vous présenter une chronique un peu plus théorique sur le populisme. Donc, vous allez voir, c'est une notion qui est très connue, qui est très abordée. On entend tout le temps parler du populisme dans les médias, mais en fait, quels sont les tenants et les aboutissants de cette notion? Donc, je vais laisser la parole à Soraya.
Bon, parlons de ma petite chronique d'aujourd'hui. Je vais vous emmener dans un voyage avec une danse que je trouve fabuleuse et incroyable, le haka. Le haka, originaire de la culture mauricienne en Nouvelle-Zélande, est bien plus qu'une simple danse. Il s'agit d'un véritable emblème identitaire et culturel. Cette performance mêle des gestes puissants et des chants scandés et des expressions intenses. Historiquement, le haka est exercé avant des batailles pour soutenir les guerriers, lors d'événements importants ou encore pour rendre hommage à des personnes ou à des dieux ou voire impressionner l'adversaire. Chaque mouvement, chaque mot ont une signification profonde, ancrée dans des années, des siècles de tradition orale. Aujourd'hui, si vous connaissez cette danse traditionnelle, c'est sûrement grâce au All Black, l'équipe nationale de rugby.
Et voilà, je l'avais pressenti.
Et oui, le rugby. Des Néo-Zélandais. En plus, ils ont joué à peu de temps, si je ne me trompe pas. Avant chaque match, ils exercent un haka impressionnant qui donne des frissons aux spectateurs et met de la pression à leurs adversaires. Peut-être avez-vous entendu parler, sinon grâce aux députés néo-zélandais qui ont récemment réalisé un haka au Parlement pour s'opposer au projet de loi. Personnellement, c'est après avoir vu cette vidéo que j'ai eu envie de faire une chronique. Car j'ai trouvé cela incroyable de voir des députés danser ensemble. Le haka n'est pas qu'une question de gestes impressionnants. Chaque haka raconte une histoire. Les textes sont souvent chantés ou criés. Peuvent être des poèmes ou des récits de mythologie, parce que ça vient beaucoup de leur mythologie. Les mouvements, frapper des mains sur des cuisses, rouler les yeux, tirer la langue, expriment à la fois une connexion avec la terre. C'est une déclaration d'émotion brute. Moi, je trouve ça hyper intense, je trouve. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais je pense que c'est le regard. Ça m'a tellement... je trouve ça tellement incroyable de faire ça. Et aussi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est cette mixité de danse. Ce n'est pas qu'il n'y a que les garçons ou que les filles qui font ça. C'est qu'il y a les garçons et qu'il y a les filles aussi qui font cette danse. Et ça, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Ce qui rend le haka si puissant, c'est qu'il transperce les frontières. Même s'il est profondément ancré dans la culture mauricienne, il parle à tout le monde. Il est ancré dans les valeurs universelles, avec l'unité, la fierté et la résilience. Beaucoup d'écoles sportives ou de groupes à travers le monde s'inspirent pour insuffler un esprit de cohésion. Je sais pas, mais je trouve que aussi le haka, on le voit partout, parce que dès le moment, je l'ai vu dans la gendarmerie française, parce qu'un mauricien, après... une session longue, il avait préféré apprendre ça à ses collègues. Et même, il y a beaucoup de personnes qui viennent de cette culture qui aiment apprendre à d'autres gens qui ne la connaissent pas forcément, ses danses et ses traditions. Et ça, je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment une danse qui montre la cohésion. Je veux dire, c'est, on dirait, une même et même personne et à la fois des personnes tous différentes et... Vraiment, je trouve ça incroyable.
Je trouve que c'est vraiment une danse d'union. Je rebondis parce que moi aussi, j'ai vu la vidéo sur le projet de loi, donc qui était un projet de loi qui visait à redéfinir les relations entre les Maoris et le reste du pays. Les Maoris qui sont en fait les populations autochtones, donc originaires du territoire. Vous voyez les Amérindiens en Amérique, les Maoris, c'est à peu près la même chose en Nouvelle-Zélande. Et en fait, ils sont installés par vagues successives et ils représentent... presque 20% de la population néo-zélandaise. Et comme dans tous les pays, je pense qu'il y a un problème qui se pose sur préserver la culture autochtone au sein du pays. Ouais. Notamment ses mythes et ses légendes, puisque les Maoris, ils ont un foison des mythes et des légendes dont on n'a peut-être pas entendu forcément en Occident parler, mais en fait qui sont plutôt très connus. Et du coup, je trouve que vraiment, c'est important que ce genre de pratiques soit répandu. Ces pratiques culturelles soient répandues médiatiquement, puisqu'en fait, on connaît tous le haka. Il n'y a pas beaucoup de pratiques qui viennent des populations plus marginales qu'on connaît tous.
Mais là, je trouve ça incroyable qu'ils ont pu se faire tous connaître. Ça, c'est aussi grâce aux All Blacks, surtout qu'on les connaît. Mais je trouve que des cultures comme ça, qui seront peu connues ou dites à connotation plutôt, des fois péjoratives, on peut dire c'est bizarre. Et que là, que ça soit autant... mis en avant en mettant de la cohésion et de l'unisson, je trouve ça tellement incroyable.
Ouais, je suis totalement d'accord. Donc on vous aura appris les origines du haka, l'émotion qui est transmise par le haka aujourd'hui. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses.
Merci.
Donc comme d'habitude.
Bon, encore merci d'avoir écouté ma petite chronique. Et comme vous connaissez ma passion sur les telenovelas, je vais vous laisser avec un petit générique d'une de mes telenovelas préférées, qui est Les Choix de l'amour. La musique s'appelle El Perdor. Et laissez place après à la chronique de Mathis sur un petit truc en plus.
¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No.
calles presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. No me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor?
Ok, on se retrouve sur l'émission Écho des jeunes du coup. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Cette fois-ci, je vais vous parler cinéma avec le succès de l'été. Un film qui a marqué les esprits et bouleversé les cœurs, pour ma part. Un petit truc en plus, si vous avez suivi l'actualité cinématographique ces derniers mois, il était tout simplement impossible de passer à côté de cette œuvre. Pourquoi ? Bah, parce qu'il s'agit déjà du tout premier film d'Artus, le comédien humoriste à succès qui a su se réinventer en tant que réalisateur avec un talent éblouissant. En effet, sorti en avril dernier, ce film n'est pas seulement une prouesse cinématographique sur le plan technique, bien qu'il excelle dans ce domaine, c'est aussi une œuvre qui va bien au-delà des images ou des bonnes sons réussis.
On est en vacances ou on n'est pas en vacances?
Tiens. Et hop.
C'est pas grave, elle a l'habitude.
Allez, on se casse. Allez.
Merde, y'a plus la bagnole.
Tu t'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi?
T'as des nouvelles du nouveau?
Sylvain?
Ouais.
J'ai eu ses parents, là, il arrive.
Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi?
Je vous présente Sylvain, les copains.
Bon, on peut y aller, là.
Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur?
Fils de pute!
Bon, on fait quoi, du coup? Fais comme eux, là.
Alors...
C'est trop, j'essaie de trouver le truc, je vais trouver le juste milieu.
On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente.
Très, très, très proche, hein.
Ça les sœurs. Jour et nuit.
Allez, va.
Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi?
T'es pas handicapé?
Si, tu veux pas handicapé, moi.
Bah, on voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne.
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui Ludovic?
C'est ma petite bite. Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches?
Pardon?
Je sais que le passé c'est passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier.
Remonte.
Pourquoi ils nous regardent, les gens?
Oh les femmes!
On vous emmène!
Et ça fait clic. Clic clic pam pam pam. Ma chérie, t'es trop séduite.
Ah, oh là là, oh putain Marie.
C'est parti droit dans sa gueule.
C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps.
Artus, de son vrai nom Victor Artus Salaro, a signé l'un des projets les plus ambitieux et marquants de l'année, et peut-être même de la décennie. À juste titre, son film s'est hissé à la 9e place du box-office français et à la 30e place du box-office mondial. C'est un véritable exploit pour un premier long-métrage. Mais au-delà de ces chiffres impressionnants, un petit truc en plus se distingue surtout par ses valeurs humaines et son message universel.
Désolé, il a un petit truc en plus quoi comme film.
Ah,
je suis désolée, j'étais obligée de le dire parce que j'y réfléchissais en même temps. Parce qu'il a un truc d'original quand même, mais dont tu vas parler évidemment.
Je vais en parler, j'y viens. Son film capable de nous faire rire aux larmes tout en nous émouvant profondément. Et celui-ci y parvient avec une subtilité incroyable. Alors, de quoi parle ce film ? L'histoire suit un père et son fils en cavale, deux personnages un peu perdus qui tentent d'échapper à leurs problèmes dans leur fuite. Ils trouvent refuge dans un lieu inattendu, une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation d'handicap. Là, pour se fondre dans le décor, le père se fait passer pour un éducateur spécialisé, tandis que son fils joue le rôle d'un pensionnaire. Vous imaginez bien la scène qui va donner des lieux à des quiproquos hilarants, mais aussi à des moments d'une grande intensité émotionnelle. Parce que c'est dans ce cadre atypique que le film explore des thématiques profondes, le handicap bien sûr, mais aussi l'acceptation de soi, la solidarité et la capacité qu'ont les liens humains à transformer des vies. À travers un récit simple et accessible, Artus met en lumière la réalité souvent méconnue des personnes en situation de handicap. On découvre leur quotidien, leurs joies, leurs défis, mais aussi leurs rêves et leurs aspirations. Le tout est raconté avec une immense sensibilité, sans tomber dans le pathos ou dans les clichés. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la manière dont Artus a su jongler entre les rires et les larmes. Le film trouve un équilibre parfait entre humour et émotion, ce qui le rend accessible à tous, les enfants, les adolescents, les adultes, hein, tout le monde y trouve son compte. C'est une œuvre universelle qui parle à chacun d'entre nous et qui nous invite à réfléchir sur nos préjugés. Mais si ce film est si réussi, c'est aussi grâce à son créateur. Artus n'est pas seulement un humoriste de talent connu pour ses sketchs hilarants ou Montreux Comédie ou son passage remarqué dans l'émission. On ne demande qu'à en rire. C'est aussi quelqu'un de profondément engagé. Dans une interview récente pour France Télévisions, il a confié son implication de longue date auprès des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, pour illustrer cet engagement, Artus a récemment porté la flamme olympique aux côtés de Sofiane, un adolescent atteint d'une maladie rare, l'ataxie telangiectatique. Ce moment
tu
fort.
Tu peux répéter le nom de la maladie, s'il te plaît ?
L'ataxie telangiectatique.
Merci.
Ce moment, c'est un peu compliqué.
J'avais cru comprendre, mais souvent avec les noms de maladies. Mais bon, c'est important de les connaître.
Oui, c'est
quand
important,
même.
C'est voilà. Important, c'est très important. Ce moment fort sur les marches du Festival de Cannes est à l'image du message porté par un petit truc en plus. Mettre en lumière des personnes souvent invisibilisées et leur donner une voix. Cette démarche est d'autant plus importante que les personnes handicapées sont encore trop peu représentées au cinéma. Souvent, leurs rôles sont interprétés par des acteurs valides, ce qui perpétue les clichés et limite leurs opportunités. Avec un petit truc en plus, Artus change la donne. Non seulement le film met en scène des personnages handicapés de manière authentique, mais il est aussi impliqué en tant qu'acteur et en tant qu'équipe. Ses choix audacieux apportent une richesse et une vérité qui manquent souvent dans les œuvres comme celle-ci. Mais à la fin, ça donne quoi ? Comme résultat. Une œuvre qui brise les stéréotypes et qui prouve que le handicap peut être une source de créativité et d'innovation. Ce film montre que les personnes handicapées n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est aussi une manière d'enrichir le cinéma et de le rendre plus humain et plus diversifié.
D'où l'importance de la représentation.
Ouais, je pense que surtout, il faudrait qu'il y ait des représentations et des personnes qui sont vraiment dans des vrais rôles.
C'est
important sur plein de plans, je pense, sur le plan de la sexualité, sur le plan du genre, sur le plan du handicap. Et en fait, on s'en rend pas assez compte, mais ça façonne vraiment nos façons de voir la vie, de voir la société.
Je pense que le cinéma, c'est l'un des outils pour changer la vie.
C'est une voie
choses.
D'intégration.
Oui, c'est l'un des plus puissants. C'est l'un des outils les plus puissants pour changer les préjugés.
C'est un outil de soft power, un outil de culture. Donc on intègre des réalités sans forcément s'en rendre compte. Mais en fait, je pense que les personnes handicapées sont souvent mises aux marges de la société, mais pas que dans la rue. Disons qu'en fait, on ne les croise pas. Parce que, comment dire, les personnes, elles sont laissées de côté. Les gens, ils ont honte d'avoir des personnes handicapées dans leur famille ou ils ne comprennent pas. Bon, ce n'est pas forcément qu'une question de honte, c'est aussi une question de connaissance. Et justement, le cinéma, c'est un de ces biais qui permet de faire connaître ces situations de handicap aux personnes sans qu'elles se sentent obligées de les accepter ou ce genre de choses. Mais en fait, ça se fait naturellement. Et c'est super important de comprendre que c'est la réalité. déjà ça, le film le tourne un peu en dérision quand même,
oui.
Donc ça permet que c'est plus simple, c'est moins dur comme film à soutenir émotionnellement. Donc toujours des questions de représentation très très importantes.
Je pense qu'il a fait vraiment un coup fort.
Oui, on le remarque au nombre d'entrées au cinéma.
Il a donné un petit coup en plus.
Je vais y venir. Donc, avant de finir, je vais revenir un instant sur les performances du film. Donc, avec une note très rare, je dis bien très rare, de 4,3 étoiles sur Allociné, qui est une plateforme reconnue pour le cinéma français, et il a obtenu le titre du meilleur premier film de réalisateur au monde. C'est-à-dire que aucun grand réalisateur n'a fait mieux pour son premier film que lui. Donc ces chiffres témoignent non seulement de la qualité de l'œuvre, mais aussi de l'impact qu'elle a eu sur le public. Enfin, ce qui rend ce film encore plus spécial, c'est son accessibilité, son scénario léger, ses dialogues percutants et ses personnages attachants. Ils en font une œuvre qui peut être appréciée par tous, que vous soyez fan de comédie, amateur de drame ou simplement curieux, ce film a quelque chose à offrir. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, il est temps, il est disponible en streaming sur beaucoup d'applications et sur beaucoup de sites de streaming. Je vous garantis que vous en sortirez transformé.
Il est peut-être probablement sorti en DVD aussi, je pense.
Oui, il est sorti en DVD. D'ailleurs, le réalisateur a fait
la promotion.
Une promotion et puis un coffret.
Mais voilà, il est disponible. Moi, j'ai une question, qui a encore des lecteurs DVD ?
Moi. Ouais, moi j'aime beaucoup regarder un film et me poser devant. Je pense que c'est...
J'aimerais bien, mais j'ai plus de lecteur.
C'est une habitude, mais voilà, j'aime beaucoup.
Donc je vous laisse avec une petite pause musicale. Toxique du groupe pop-rock 2002.
Retrouvons sur l'émission L'écho des jeunes, donc avec la prochaine chronique, qui est ma chronique, sur le populisme. Donc, le populisme est une notion qui pose les bonnes questions, mais ne fournit pas un lot tout près de réponses. C'est Christopher Lasch qui l'a dit, puisque moi je ne suis pas une professionnelle en citation, dans Le seul et vrai paradigme, mais en fait je trouve que ce constat est plus qu'actuel. Et vous allez pouvoir le constater de vos propres oreilles, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de cette approche politique, qui est à la croisée des chemins économiques et sociaux, approche plutôt menaçante et manipulatrice, mais aussi très méconnue. Ou plutôt, on va parler des populismes, dans toute leur diversité. Peut-être songez-vous que ce concept est au contraire très médiatisé et répandu, mais il n'en reste que le populisme est aussi une vision politique assez trouble. Petit avertissement au préalable, cette chronique ne vise pas à accuser des acteurs politiques, dirigeants et citoyens, ou à stigmatiser leur position politique. Évidemment, il n'y a pas de consensus sur ce terme du côté des chercheurs, terme dont l'étude scientifique est confrontée à son instrumentalisation politique fréquente. Le populisme est étymologiquement vient du latin populus, qui signifie le peuple, et du suffixe isme, qui désigne une approche absolue, une doctrine. Jusqu'ici, tout est clair. Dans un premier temps, on peut réfléchir à une définition, une délimitation du populisme. Puis je vais vous transmettre un petit contexte historique, et enfin je vais aborder la notion de menace populiste. Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme menace ? Alors, comment définir le populisme ? Ce qu'il inclut ou ce qu'il n'inclut pas. C'est pas une question si simple, mais globalement on pourrait parler d'une approche politique, d'une stratégie de conquête du pouvoir qui a tendance à opposer un peuple, davantage vertueux, à des élites politiques, économiques, médiatiques, culturelles et ou intellectuelles, corrompues. On considérerait alors que la société serait scindée en deux parties, uniformes. L'utilisation du terme est souvent péjorative en Europe, associée à des partis d'extrême droite dans leur dimension identitaire, presque raciale, qui rejettent tout ce qui irait à l'encontre des intérêts du peuple, ou c'est aussi associé à des partis presque autoritaires et ne respectant plus l'état de droit. Mais attention, certains mouvements de gauche sont aussi qualifiés de populistes, notamment en Amérique latine, seulement ils remettent moins en question les institutions démocratiques. La gauche populiste peut être comprise dans un sens plutôt marxiste, une sorte de lutte entre la classe ouvrière et des élites capitalistes. De plus, on ne peut pas attribuer à toute la droite de l'échiquier politique une étiquette populiste. Par exemple, les partis royalistes sont vraiment détachés du peuple. Pour résumer, le populisme n'a pas de couleur politique. Il peut être utilisé comme discréditation, mais aussi une revendication parfois en tant que défense d'un peuple qui est écarté de la démocratie. En fait, il y a une explication derrière l'ambiguïté de ce terme. La définition du populisme dépend de son utilisation et de son contexte. Actuellement, populisme s'apparente à la démagogie, c'est-à-dire à un mauvais usage de la démocratie fondé sur l'abus de flatterie, de la séduction et de la promesse vis-à-vis du peuple. Mais il peut aussi être l'expression de mouvements populaires émanant du peuple défavorisé, dénonçant une démocratie appropriée par les élites. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes explications truffées de contradictions, mais en fait c'est bien représentatif du jeu des évolutions politiques et démocratiques. Cependant, on ne peut pas définir cette notion qu'avec des éléments théoriques, car l'utilisation du terme populiste recouvre a priori des réalités bien différentes. Petite liste non exhaustive, la campagne pour le Brexit au Royaume-Uni, l'AFD allemand, le Hongrois Viktor Orban, le Trumpisme des États-Unis, mais aussi Bernie Sanders, le sénateur socialiste du Vermont aux États-Unis, le gouvernement de Giorgia Meloni, le parti Podemos en Espagne, la France Insoumise et le Rassemblement National en France, qui vous sont sûrement plus que familiers. Dans cette liste des pouvoirs politiques non exhaustives, les points communs ne sont pas si nombreux. Les discours adressés à un peuple, la désignation d'ennemis, que ce soit les élites, le système ou les migrants, mais aussi un leader plutôt charismatique. Je crois cependant que tous ces mouvements populistes, si diversifiés, sont tous l'expression d'une défiance envers les systèmes démocratiques, mais aussi de la diversité et des inégalités dans la société. Donc il faut revenir au contexte nationaux, internationaux, sociologiques, historiques, économiques, pour comprendre le développement du populisme. Donc je vais essayer de puiser un petit peu dans ses racines pour vous en montrer les réels enjeux. Chronologiquement, j'ai pu trouver trois représentations historiques majeures du populisme. Même si on peut dire que c'est Napoléon qui l'a inventé. On va essayer de se situer sur des cas plus concrets. D'abord, il y a la Russie, ensuite les États-Unis et enfin l'Amérique latine. Donc des cultures vraiment différentes. Donc déjà, laissez-moi vous plonger dans la deuxième moitié du 19e siècle, la Russie des Tsars. La population qui sera bientôt rouge et encore largement paysanne. Mais un idéal social et une envie de révolte commencent à émerger par-delà les champs de blé. Petit aparté pour préciser pour les auditeurs qui ne le savent pas que les tsars sont les souverains de la Russie à l'époque. Ceux qui détiennent le pouvoir absolu en gros. pour en revenir à notre contexte, les communautés agraires qui cultivent la terre et commencent à auto-organiser le peuple sont surnommées de façon péjorative, et excusez-moi d'avance pour la prononciation en russe, les narodniki, autrement dit ceux du peuple, les populistes. Ce mouvement marque déjà la volonté du peuple de s'unir et de faire valoir ses intérêts en dehors d'un pouvoir absolu. Je continue mon petit récit. Les années 1860-1870 sur le territoire des États-Unis. Le territoire est très inégal en période de révolution industrielle capitaliste. En effet, beaucoup de fermiers de l'Ouest et du Sud des États-Unis sont en concurrence directe avec l'agriculture industrielle et se ruinent. Révoltés, une partie de ces fermiers rejoignent le People Party, en français le parti du peuple. Ces fermiers réclament une économie américaine adaptée à la démocratie et dénoncent l'emprise politique de Wall Street. Donc, c'est une rue qui traverse le quartier des affaires à New York, qui existait déjà à l'époque. Ces convictions étaient déjà qualifiées de populistes car elles traduisaient des volontés de lutter contre les oppressions d'élite et une volonté d'être représentée politiquement. Finalement, le populisme, c'est aussi un mouvement qui naît dans l'Amérique latine entre les années 30 et 60. Mouvement qui, contrairement aux traditions européennes, est parfaitement légitime en Amérique latine. Il repose sur des personnalités charismatiques. Donc on peut penser à l'ancien général et président du Mexique, de Lázaro Cárdenas, de 1934 à 1940. Mais aussi au Brésil, gouverné par Getúlio Vargas, dans les années 30, et encore à Juan Perón, à la tête de l'Argentine de 1946 à 1955. Par exemple, dans le contexte argentin, il y avait une décennie infâme, avec des crises économiques, des putschs militaires, et on en a besoin en fait, de ce contexte pour envisager le coup d'État et la politique populiste de Juan Perón. Il a oscillé entre des réformes progressistes et démocratiques en faveur du peuple, mais aussi des relents d'autoritarisme et de fascisme, qui étaient plutôt tendance à l'époque. Hein. On se rappelle, 1946. Mais surtout un mouvement social fort derrière la présidence qui délimite cette forme de populisme comme une transition entre un peuple sans pouvoir et un régime plus démocratique, qui repose sur des institutions. Donc le populisme d'Amérique latine, qui reste encore de gauche aujourd'hui, nous entraîne vers des caractéristiques du populisme plus moderne qu'on peut connaître à notre époque. Le populisme est souvent incarné par une personnalité forte et charismatique, comme on pourra en reparler dans les menaces du populisme, comme représentant du peuple. Il peut s'avérer autoritaire, discriminatoire, voire antidémocratique dans sa volonté de faire accomplir la volonté du peuple inconditionnellement au-dessus de tout. Paradoxal, n'est-ce pas ? En plus, si définir le populisme est flou, définir le peuple et sa volonté me paraît encore plus risqué, hein, puisque je ne suis pas certaine que les partis populistes puissent se targuer d'avoir compris ce peuple, ou plutôt les populations avec justesse. Mais est-ce que le populisme mène perpétuellement à l'autoritarisme ? Est-ce qu'il tuera nos démocraties ? Mystère et boule de gomme. Et voici ma dernière partie. Même les chercheurs les plus notoires n'ont pas encore fini d'aborder cette question. Quels sont les enjeux et les menaces populistes ? Donc après les vagues d'espoir communiste pas des dernières décennies, mais qui commencent un petit peu à dater, il y a eu une nouvelle ère politique qui a commencé, celle du populisme. C'est des régimes de passion et d'émotion. Les moteurs et les déclencheurs sont souvent définis comme la peur, le dégoût et l'amour d'une patrie idéale, afin que la population rentre dans un jeu de machination politique. Par exemple, si on prend l'exemple des populistes d'extrême droite, on peut penser à la peur de l'insécurité, le dégoût associé à l'autre, à tout ce qui est différent de soi, le ressentiment contre l'indifférence des gens et des politiques surtout, et enfin l'amour d'une patrie d'antan, d'une patrie illusoire, une patrie pure. Le sentiment de déclassement de la classe moyenne supérieure de la petite bourgeoisie renforce cette peur et l'attirance vers le populisme. Donc ça, il y a quand même un contexte économique derrière. L'un des risques principaux de ce genre de mouvement politique, c'est la manipulation des sentiments du peuple, qu'il crée et exacerbe. Tous les rivaux politiques et les opinions divergentes peuvent devenir des ennemis officiels pour garder le pouvoir. Quand le populisme n'est pas une défense du peuple, il peut en être la division. Ensuite, les pouvoirs populistes s'appuient souvent sur des médias affiliés à certains partis, qui appuient leur discours et parfois utilisent les faits pour exacerber les sentiments de déclassement et de peur. On peut penser à Fox News aux USA, à Israël Hayom en Israël, et il y a bien sûr de nombreux exemples de médias au chevet de l'extrême droite populiste en France. De plus, dans certains pays où le populisme dérive vers l'autoritarisme, la presse est muselée. On peut penser au Venezuela où le président syndicaliste, donc populisme de gauche, Nicolas Maduro tient avec fermeté, sûrement trop de fermeté, son pays. Donc ça pose plusieurs questions, pluralisme, désinformation. Mais bref, même quand les populistes ne gagnent pas les élections, leurs discours sont propagés et légitimés, ce qui incarne bien sûr la menace, puisque ça peut atteindre n'importe quel pays, n'importe quelle situation, et le populisme n'a pas besoin de victoire. Pourtant, rien n'arrive sans raison. Et le populisme est un danger pour les démocraties, car les démocraties sont malades. Elles sont défaillantes, et bien sûr elles sont imparfaites, comme tout système politique. Bon, le populisme peut aussi être lié aux crises économiques, comme on a pu l'aborder dans le contexte historique que j'ai donné tout à l'heure. Dans les faits, aujourd'hui, nos systèmes de démocratie représentative, c'est-à-dire des démocraties où le peuple délègue ses pouvoirs à des représentants, ne parviennent pas à inclure les populations dans leur entièreté. Les laisser pour compte, ceux dont les problèmes ne sont jamais présents dans le débat social, remettent en question nos démocraties qui ne sont souvent pas continues. C'est-à-dire que souvent, la démocratie s'arrête aux élections. Mais... Ouais. Est-ce que c'est normal ?
C'est ça, à se poser la question, il faut redonner de l'importance. Après les élections, il ne faut pas que ça s'arrête, il n'y a pas que les élections.
Puis l'autre menace, c'est avoir une seule personne, un seul humain charismatique comme représentant de tout un peuple. Ouais, c'est pas non plus une option très démocratique.
Oui,
voilà.
Je pense pas.
Donc on peut penser à La République, c'est moi, de Jean-Luc Mélenchon, qui incarne bien sûr cet homme du peuple, ou... Le « I am your voice », donc de Donald Trump, « Je suis votre voix », c'est pas que des paroles en l'air, hein, c'est des vrais problèmes démocratiques. Donc on a besoin de se rendre compte de cette menace populiste qui pèse sur les institutions de démocratie libérale, les juges, les constitutionnels, les médias libres, les droits des minorités. En fait, c'est déjà une étape de cette menace et il y a encore beaucoup d'étapes qui pourraient être franchies. On peut évidemment déplorer les contestations des résultats qui sortent des unes. Petit clin d'œil au nouveau président des États-Unis qui nous a fait une belle crise en 2020 et qui a pu emmener bien sûr toute la population qui l'avait déjà cru auparavant, qui l'avait déjà convaincu sur ses trousses, ou encore à la corruption des urnes. Ensuite, une fois que la menace est constatée, il faut trouver les clés pour l'éloigner et réparer nos démocraties. On peut imaginer plusieurs recettes, et je vais terminer sur ça, mais aucune n'est un miracle. Réformer les institutions, expérimenter la démocratie participative, organiser une classe dirigeante plus représentative. Donc le populisme, qui est très controversé, mal défini, qui s'approche de la démagogie, est très variable, d'un peuple à un autre. C'est pour ça que le terme est contesté. Parce que, on pourrait le remplacer par d'autres termes qui seraient plus précis. C'est souvent le cas avec les termes, les mots, qui sont très variables. Sachant que le peuple en question est aussi variable, hein, puisque le peuple italien n'est pas le peuple français, qui n'est pas le peuple...
Venezuela.
Voilà, c'est ça, rien à voir. Pas du tout la même histoire. Donc si l'on ne modernise pas nos démocraties, peut-être que les populismes pourraient prendre plus de place. Et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce pourquoi on doit agir, pour mettre en place des mesures restrictives peut-être, ou améliorer nos échanges au sein des démocraties, les performer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vais vous laisser avec Position de Djangeli. Merci beaucoup.
Salut, au revoir.
Au revoir, on se retrouve pour le prochain épisode radio.
Oui. Et oui, alors 2025,
donc bonne année.
Bonne année à tous, passez de bonnes fêtes. J'espère que le Père Noël passera chez vous. Bisous.
Tchuss.
C'est toujours comme ça, les gars. On va donner jusqu'à la dernière minute.
Let's get yeah. Allez, switch.
Bébé, un joli loqueton. Tosse pour moi, oui, fais-moi cadeau. Y'a personne en face, trop d'avant. J'ai tant tout, ils sont restés dans mon dos. J'ai les plugs, mamie, j'ai les clés. Tout ce qu'il faut, j'ai très gros réseau. Tout va bien, faut pas t'inquiéter, bébé.
On y va.
Je suis dans ça, tu connais. Mon gars, ça, la porte, si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remonté. Elle aime quand ses bras sont dans la nuit. Oh, baby, je vais t'emmener. Mon gars, la porte, si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remonté. Fais-toi belle, je viens te chercher. Pour la monnaie, faut se lever, et toi. Pour ma voix, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes pro. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis, j'y pense, je réfléchis, j'y pense, partout comme à la maison. Je suis prêt comme seul en béton. Pas d'échelle, y'a que des leçons. Son bibi veut manger maintenant. On va pull up, pas de sang. Y'a personne qui fait semblant. Bélier, on te rend dedans. Moi si je pars, je fais. Pour la monnaie, faut se lever tôt. Pour ma voix, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes pro. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis, j'y pense, je réfléchis, j'y pense. Pour la monnaie, faut se lever tôt. Pour ma voix, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes pro. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis, j'y pense, je réfléchis, j'y pense, je réfléchis, j'y pense, je réfléchis, j'y pense.